Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse, le safran de la safranière à votre assiette. Nous sommes de retour à Cagnac-du-Causse, chez la sympathique Élodie Varin, et nous allons continuer à ramasser les quelques dernières fleurs parsemées dans la safranière.
En continuant à ramasser ?
Allez. Alors il ne faut pas les louper.
Ah oui, il y en a une qui est fermée
puisque...
là.
Oui, ah oui. Alors je l'accueille quand même, puisque la maison elle va finir de s'ouvrir. Voilà, bon, c'est pas trop gênant qu'elle soit fermée. Hein. Faut pas non plus les prendre trop oui. immatures. Mais...
Bah, à la limite, les stigmates sont protégés. Là.
Oui, mais c'est mieux d'attendre en fait que la fleur s'ouvre entièrement, puisque le pistil se développe de mieux en mieux. Quoi. Plus les pétales sont ouverts et plus le pistil grandit et s'allonge, ce qui permet d'obtenir du poids. Donc là, on voit qu'on est arrivé à la fin de la floraison, puisqu'on commence à voir les feuilles des bulbes qui sortent, vous voyez là. Voilà, donc là, ils font à peu près 10 à 15 cm de hauteur pour les plus grands. Il faut savoir qu'au mois d'avril, ça peut atteindre jusqu'à 50 cm de hauteur, le feuillage. Ça devient très très long, très fin et très long. C'est assez spectaculaire en fait, puisque c'est vraiment les fleurs qui sortent en premier et le feuillage qui se développe derrière. Donc c'est à ça qu'on voit que vraiment ça se termine, hein, la cueillette se termine.
Oui, c'est un signe.
Oui, c'est un signe.
Et donc, à partir de maintenant, vous allez la laisser un peu tranquille
voilà,
elle va vivre sa vie.
Oui, je vais attendre que toutes les feuilles soient sorties pour voir exactement où sont les bulbes. Bon, moi, je les ai plantés tous les 20 cm, donc c'est assez facile de se repérer. Mais pour désherber, il vaut mieux désherber uniquement les adventices que les bulbes de safran.
Et là, pourquoi vous les avez mis en but?
Alors, on m'a appris en fait que le safran, c'est assez sensible au gel. Donc ça permet de le protéger du gel, il est enterré là de entre 20 et 25 cm de profondeur. Et le fait de l'avoir planté en butte, en fait j'ai repris la terre des allées pour les remettre sur les planches, ce qui a augmenté la profondeur de plantation.
D'accord.
Voilà, parce que c'est un terrain qui est assez caillouteux, on est sur le Causse, il hein, ne faut pas oublier.
Oui.
Donc planter profond sur le Causse, il faut être bien courageux. Donc le fait de planter sur butte, en fait j'ai augmenté artificiellement la profondeur de plantation. Voilà, et ça permet d'obtenir aussi des fleurs plus grosses, ce qui n'est pas toujours connu en fait.
Oui, pourquoi ouais. des fleurs plus grosses?
C'est un mystère de la nature. Voilà. Mais plus les fleurs sont grosses et plus le pistil est développé, donc plus long.
Élodie Varin, charmante jeune femme souriante et dynamique. Élodie sait ce qu'elle veut et jusqu'où elle souhaite aller dans son activité de maraîchage et de culture de safran. Tous les deux sont sous label bio et à ces deux activités, elle désire rajouter les produits transformés à partir des produits issus de son exploitation, produits qui seront à base de safran ou pas.
C'est vraiment les dernières là. Hein.
Oui. Et là, on traverse un peu la safranière au pas de course parce que bon, les fleurs se voient quand même d'assez loin.
Ah, bon, j'ai
c'est
eu.
Un bleu profond.
Il y en a une là.
Donc la cueillette est quand même très facile. Hein.
Oui, ça se coupe tout seul.
Ça se coupe tout seul, ouais. Il suffit de se baisser. Et la nature nous offre tout ce qu'elle a de plus beau.
C'est vraiment magnifique.
Ouais. Et ça colore les doigts, vous voyez?
Ouais. Ah oui, les doigts tout jaunes.
Ouais.
Ah ouais, déjà au bout alors, de 3-4, les doigts sont jaunes.
Oui, j'ai les doigts jaunes, alors c'est le pistil qui colore en jaune. Par contre, si je cueille à peu près 900 fleurs, je vais avoir les doigts violets, à cause des pétales. Et quand on émonde, c'est pareil, on a une main jaune par le pistil et l'autre main violette, par le fait d'écarter les pétales en fait. C'est rigolo. On en voit quelques-unes qui pointent le bout de leur nez, donc j'aurai encore quelques fleurs à cueillir demain ou après-demain.
Oui, c'est les petites.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
Ça fait un petit fuseau et on voit bien que ça
voilà.
va. Ouais.
Et on aperçoit le bout du pistil qui pointe le bout de son nez à travers les pétales.
Ah oui, exact. C'est un petit bout rouge qui sort.
Donc ça pousse moins vite maintenant. Hein. Donc même si elles sont un petit peu fermées, je les cueille parce qu'après elles ne vont plus avoir la force vraiment de...
Oui, ça grossira pas plus.
De grossir, voilà. Donc, après, ce sera abîmé par la pluie. C'est pas le but recherché.
Celle-là, ouais, c'est pareil, elle n'est pas ouverte.
Non. Non, non, donc ça. On manque un petit peu de soleil là aujourd'hui pour vraiment que ça s'ouvre. Celle-là, elle a dû sortir hier. Et ça s'est refermé en fait. Donc là, d'où l'utilité d'aller les faire sécher un petit peu à la maison parce que vous voyez, j'ai vraiment du mal à écarter les pétales. C'est pas évident quoi. Donc on fera ça, l'émondage, on fera
oui,
ça quand ce
fait,
sera sec.
Vous faites à la maison. Ah, encore une de ce matin.
Voilà, alors là, on voit vraiment que la fleur sort avant les feuilles. On voit aucune feuille, là. Hein.
Oui, exact.
C'est vraiment très curieux comme culture.
Oui.
Celle-ci est sortie de ce matin aussi.
Vous ne voyez pas elle est haute, hein, comme
voilà,
fleur,
hein. La hauteur de la lampe florale, là, c'est vraiment quelque chose.
Ça fait 7-8 cm, 7 cm, bien. Ouais.
Ah oui. C'est beau, hein, ouais, avec toutes les gouttes de rosée.
Vraiment des belles
couleurs,
c'est magnifique. Avec les petites gouttes, ouais.
Ouais, c'est superbe. Ça donne envie de peindre.
Ouais, encore une, on est quand même sorti ce matin.
Oui. Ah oui, beaucoup moins que vraiment en pleine floraison, mais il en sort encore, oui.
Là, on arrive au bout.
Oui.
On va avoir fait toute la safranière.
C'est une culture qui est vraiment à la portée de chacun. On peut les mettre dans une petite jardinière, on peut les mettre dans un coin du jardin, pour peu que ce soit exposé au sud et qu'il y ait un sol bien drainant. C'est un crocus, hein, faut pas oublier. Hein.
De toute façon, autrefois, entre autres dans le Quercy, chacun avait bien son...
Oui.
Quand on écoute les anciens, son petit carré
voilà.
De safran.
Oh, oui. Chaque ferme avait sa petite safranière. Hein. Et bon, ça se développait comme ça pouvait. Mais c'est vrai que les anciens cuisinaient beaucoup au safran. Hein. Oui, ça s'est perdu, c'est dommage. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça va se retrouver.
Ça va revenir
voilà.
avec des gens comme vous
voilà.
qui relancent le safran. Enfin, qui relancent, qui le cultivent. Ouais, de ce côté-ci, a priori, on n'en a pas vu. Mais ça va être joli aussi l'hiver quand il y a ces feuilles qui poussent là, parce que tout le reste est plus ou moins grillé ou il n'y a plus rien. Puis
On a dû récolter une trentaine de fleurs ce matin là.
30 fleurs.
Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Ouais. Hein. Ouais, c'est la
fin. Vous êtes monté à combien au pic?
Alors les plus grosses journées de récolte, je suis arrivée jusqu'à 1000 fleurs. Et là, c'est magnifique, parce que quand on arrive là sur la safranière, on voit toutes ces fleurs écloses, tout est violet, c'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment superbe. Alors, je les compte au fur et à mesure que je les récolte, pour savoir justement combien j'ai récolté de fleurs d'une année sur une autre. Quoi.
Donc là, on va ramener le petit panier avec les 30 fleurs à la maison.
Voilà, je vais vous montrer les mondages, fleur par fleur.
Bah, il fait bon, il n'aura même pas plu.
Après ce moment passé dans la safranière à accueillir les quelques dernières fleurs, nous remontons à la maison, le temps de boire le café et nous allons procéder au séchage de notre petite récolte de ce mois de novembre.
Là, il y en avait 30 tout à l'heure, vous avez dit?
Oui, à peu près, oui.
Donc là, vous les avez mis sur un tissu?
Voilà, sur un torchon propre pour qu'elles s'égouttent un petit peu, quoi. Voilà, donc les petits ciseaux de couturière. Voilà, alors, donc les fleurs se sont un petit peu égouttées sur le torchon. Donc on commence l'émondage. Donc on prend une fleur, on écarte les pétales et on découvre le pistil composé de ces trois stigmates. Donc je coupe avec les petits ciseaux à la base des trois stigmates, donc pour éviter de prendre du jaune qui ne sert à rien du tout en cuisine. Le jaune ne colore pas et ne donne pas du tout de goût. C'est uniquement la partie rouge du pistil qui donne le goût au plat que l'on va cuisiner. C'est la partie rouge qui colore en jaune, curieusement. Oui. Je dispose les stigmates sur une petite assiette que je vais peser ensuite. Et donc, une fois le séchage terminé au four électrique, le pistil doit perdre 80% de son poids en eau. C'est énorme. Le pistil, ça pèse vraiment rien du tout. Mais alors, une fois séché, c'est dérisoire.
Ouais, donc une fois que c'est sec, après vous reposez pour voir si vous êtes...
Voilà, si je tombe à peu près dans les clous. Alors il faut savoir que le safran continue de sécher un petit peu, perd encore un petit peu de son eau une fois le séchage terminé. Mais bon, ça reste anecdotique. Il faut vraiment que le séchage au four soit assez rapide pour conserver tout le goût du safran.
Et vous séchez à quelle température?
À 50 degrés.
50.
Alors là, le séchage, il faut vraiment faire attention, quoi, parce que à quelques minutes près, vous perdez tout. Hein. Donc il ne faut pas en fait sécher toute la récolte du jour en même temps, parce que si vous avez un petit pépin de séchage, vous perdez toute la récolte. Il vaut mieux sécher par petite quantité, on limite les risques en fait. Hein. Alors pour 5 grammes frais, je récolte 1 gramme sec, ça met à peu près un quart d'heure de séchage à 50 degrés. C'est ce qui conditionne en fait toute la conservation de l'épice. Voilà, donc là on a terminé l'émondage, on va passer au séchage.
Donc là vous avez pesé d'abord. Alors on avait 30 fleurs et on va voir combien nous avons récupéré de stigmates.
Donc là on a 0,57 g en frais. Donc il va falloir que ça perde 80% de son poids. Donc c'est dérisoire, hein. 30 fleurs c'est vraiment la fin. Donc là, on attend que le four se stabilise à 50 degrés et après, j'enfourne le plat avec les pistils frais pour quelques minutes.
Le temps que le four monte et se stabilise en température, Elodie nous parle de ses différents circuits de vente.
L'année dernière, j'ai tout vendu en pistil à des particuliers que j'ai rencontrés sur le marché en vendant les légumes. Et j'en ai vendu aussi dans des magasins bio à Cahors. Voilà. Alors cette année, je veux en vendre aussi une partie en pistil, comme ça. Donc, je les conditionne en 1 g et en 2 g. Et je vais en garder une partie aussi pour faire de la transformation.
Donc en transformation, vous faites des confitures?
Voilà, j'ai fait de la confiture de melon au safran. Je veux faire de la confiture de potiron au safran. J'en ai déjà fait l'année dernière pour nous, consommation personnelle, hein, c'est excellent.
C'était bon?
Ah oui. Ah oui, c'est super bon. Donc, je vais essayer les soupes aussi, je vais essayer plusieurs recettes pour voir ce qui ressort le mieux. Parce qu'en fait, selon les ingrédients que vous cuisinez avec le safran, le goût ne ressort pas toujours en fait. Il faut quelque chose d'assez neutre pour pas que le goût se perde en fait dans les autres ingrédients. Alors par exemple, la confiture de melon au safran ou la confiture de potiron au safran, plus vous gardez le pot longtemps et plus le safran a le temps de s'infuser dans le produit, et donc vous avez plus de chances d'avoir le goût de safran. Donc il faut être un petit peu patient et pas trop gourmand pour pas ouvrir les pots trop vite, quoi. Alors je vais vous faire sentir la récolte de cette année.
Ah.
Et vous allez me dire si ça correspond à une autre épice, parce que vraiment c'est très particulier, on ne peut pas comparer ça à une autre épice. Quoi. C'est...
Ça sent bon.
Ça sent bon, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est indéfinissable.
On peut pas comparer à autre chose.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là j'ai toute la récolte de l'année. Donc après il va falloir que je mette ça dans des petits bocaux en verre, avec le logo des jardins de Saint-Nomphèse, l'étiquette, le poids, etc., etc., les coordonnées de la productrice. J'ai monté un site internet qui s'appelle lesjardinsdesaintnomphèse.com sur lequel vous avez quelques recettes succinctes pour expliquer un petit peu la façon dont on travaille le safran.
Parlons un peu de Saint-Nomphèse. Pendant des siècles, les habitants du Causse se sont ingéniés à capturer et à conserver l'eau, si prompte à s'enfuir par la moindre fissure. Pour abreuver les bêtes dans les pâtures trop éloignées des rares points d'eau, ils ont creusé laborieusement dans les affleurements rocheux les plus étanches de larges bassins que la pluie se chargeait d'emplir. La légende attribue ces lacs à Saint-Nomphèse, officier de Charlemagne, devenu ermite dans la forêt de la Brogne. C'est en creusant un de ces lacs qu'il fut tué par un taureau. Depuis, il est enterré à Cagnac-du-Causse. Cagnac-du-Causse, dans la petite église, abrite la crypte visitable de Saint-Nomphèse.
Et là, dans le flacon, il y en a combien, donc ?
Bah là, il y a les, à peu près entre 30 et 33 grammes. Ouais, ouais.
Ça fait un beau volume. Hein.
Quand même, oui. C'est précieux, là.
Oui, parce qu'il faut rappeler, quand même, c'est une épice qui coûte très cher. Hein.
Oui, 30 000 euros le kilo minimum. Ouais, ouais. Donc ça fait 30 euros le gramme. Moi, je le vends à 30 euros le gramme. Voilà. Mais bon, il faut voir aussi tout le travail que ça représente, hein, au niveau plantation surtout, au niveau désherbage. Bon, la récolte, c'est plus rapide, c'est plus agréable, c'est complètement différent, c'est moins physique. Mais au niveau de la plantation et du désherbage, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est si cher, en fait. Hein. Le prix du safran, c'est vraiment le prix du travail de l'homme. Ou de la femme, ouais. En l'occurrence. Ouais. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant, en fait. Hein. C'est pas cher parce que c'est rare. Bon, effectivement, c'est rare. Donc, mais vraiment, c'est le prix du travail.
Tout le travail
de oui. Tout est manuel. C'est vraiment un travail de longue haleine.
Les filles d'Élodie, qui, comme vous allez l'entendre, participent à la vie de la safranière.
Alors, vous faites le ramassage des fleurs, sinon, à la saison ?
Oui. Oui, avec maman.
Et t'aimes bien le faire ?
Oui.
T'en ramasses beaucoup ?
Bah, à la fin, oui, mais au début, on en avait beaucoup plus.
Tu les ramasses comment alors ? On t'a montré comment les cueillir ?
Oui. En fait, on les coupe avec les ongles.
Donc tu as ton petit panier ?
Oui.
Et tu es contente là, de ramasser ces fleurs de safran ?
Bah oui.
Tu les trouves jolies ?
Oui.
Ça sent bon ?
Bah oui.
Et après tu as les doigts comment ?
Normal.
Non, ils sont pas colorés ?
Non.
C'est parce que t'en as pas ramassé assez, alors.
Le safran, tu le ramasses aussi ?
Oui.
Et t'aimes bien le ramasser ?
Oui.
Elle court dans les allées, Isaline, pour ramasser les fleurs.
Oui.
Hein ?
Alors, t'en as ramassé beaucoup de fleurs cette année ?
Oui.
Tu les comptes ?
Oui, c'est maman qui les compte.
C'est maman aussi. Qui les compte.
Puis après, au bout de 100, qu'est-ce qu'on fait ? Au bout de 100 fleurs ?
On met quoi? Dis-le, Ben.
On reconte du début.
On
met un caillou dans la poche pour savoir la centaine qu'on a, pour pas se tromper.
Ouais, pour pas se perdre, parce que sinon, au bout d'un certain nombre, on va plus savoir où on en est.
Voilà, c'est ça.
C'est sur le rire d'Élodie Varin que nous refermons ce chemin de traverse. Le temps que le four monte en température, et nous nous retrouverons pour le séchage lors de notre prochain et dernier rendez-vous avec le safran de la safranière à votre assiette. C'était Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément-Fèvre.